Bonjour, aujourd'hui, la mort de Cléopâtre. Où est Cléopâtre, la belle? Vous savez ce qu'elle est devenue? Deux empereurs brûlés pour elle, la débauche en fit une grue, elle flétrit et redevint poussière. Bertolt Brecht. Mille ans d'histoire. Pour ne pas être traîné dans les rues de Rome, enchaîné derrière le char d'Octave, on sait que Cléopâtre avait préféré mourir. Après s'être rendue une dernière fois sur la tombe d'Antoine, elle avait demandé à ses deux servantes de la baigner, de la farder et de la vêtir de ses habits royaux avant de se faire mordre par un cobra caché dans un panier de figues. C'est ainsi, nous dit Plutarque, que la dernière souveraine d'Égypte est morte à 39 ans, à Alexandrie, mettant fin à une histoire commencée 3000 ans plus tôt, avec les premiers pharaons. L'histoire d'un empire si puissant que jusqu'à sa disparition à l'époque de Cléopâtre, la richesse de l'Égypte impressionnait encore Jules César.
Que me montreras-tu demain? Plus de blé? Ce que j'ai déjà vu pourrait nourrir plus de légions que Rome n'en a jamais eu.
J'en ai assez pour nourrir le monde.
Plus d'or, alors? Pourquoi n'achètes-tu pas le monde? Tu dois avoir assez d'or pour cela.
J'en ai suffisamment pour payer plus de légions que même Rome n'en a jamais eu.
Plus de granit, plus de marbre, plus de millions d'esclaves pour bâtir tout ce que tu veux bâtir. De meilleures routes pour les Indes, des routes plus courtes pour l'Est. Que peut-il y avoir en Égypte que je n'ai point vu?
L'Égypte elle-même, la raison d'être de l'Égypte.
Je suis responsable de Rome.
Alexandre avait compris, lui, qu'en régnant sur l'Égypte, il régnerait sur le monde.
Hortense Dufour, bonjour.
Bonjour.
Alors avec vous, nous allons parler d'un des destins les plus extraordinaires de l'histoire, celui de la dernière reine d'Égypte, à laquelle vous avez consacré un roman, Cléopâtre la Fatale, publié chez Flammarion. Cléopâtre, reine d'Égypte, que l'on vient d'entendre ici invoquer Alexandre. C'est vrai qu'on oublie que les derniers pharaons étaient grecs d'origine.
Oui, en fait, Cléopâtre, c'est une Ptolémée, c'est une Lagide, c'est une dynastie grecque. C'est
une Macédonienne. Oui.
C'est un général d'Alexandre, le Ptolémée le Lagide. Lagide, ça voulait dire le lièvre, le rapide. Et Alexandre, donc 376 ans avant Jésus-Christ, a joué au dé toutes ses conquêtes et a donné à son meilleur lieutenant, le Lagide, il lui a donné l'Égypte. Et c'est ainsi que la dynastie des Lagides a été créée.
Avec pour capitale Alexandrie.
Rakotis à l'époque. Oui. Rakotis, c'était un village de pêcheurs, mais Alexandre avait jaugé la situation extrêmement intéressante de la future Alexandrie, carrefour vraiment entre la mer, la terre, les routes et surtout la route des Indes, donc carrefour du commerce, d'où les richesses accumulées et fabuleuses de cette terre d'Orient.
Richesse convoitée par les Romains et incarnée par cette capitale, justement, qui sera celle de Cléopâtre, Alexandrie, hein, son phare, une des sept merveilles du monde, sa bibliothèque, 700 000 volumes, autant d'ailleurs de volumes dans la bibliothèque qu'il y avait d'habitants à Alexandrie.
Dont les manuscrits d'Aristote, achetés par Ptolémée le Second, qui était extrêmement instruit. C'était une dynastie à la fois assassine, criminelle, une fratrie aussi, parce qu'ils avaient conservé le rite égyptien de se marier entre frères et sœurs.
Et d'ailleurs, effectivement, quand Cléopâtre devient reine, c'était en 51, je crois, avant Jésus-Christ, elle a 17 ans à ce moment-là, elle épouse son frère qui a 10 ans à peine.
C'est cela, elle épouse Ptolémée le 13e, puisque son père Ptolémée le 12e, le Olette, c'est-à-dire le joueur de flûte, est mort dans ses déjections, ses outrances et ses orgies, haï de tout son peuple, on le surnommait l'outre à 20, et elle épouse par stratégie son jeune frère qui l'a haïssé, il avait 13 ans en fait. Et il y a un autre petit frère qui suit, Ptolémée le 14e, qu'elle épousera aussi par stratégie à mesure de son histoire, et une demi-sœur Arsinoé qui s'allie avec cette fratrie assassine pour la faire disparaître et régner à sa place. Mais Cléopâtre la septième a bien décidé de régner seule.
Ah oui, c'était pas une potiche, hein, c'est certain. Effectivement, elle devient reine des deux terres, c'est-à-dire de la haute et de la basse Égypte. Mais elle était très autoritaire, très ambitieuse, très cultivée aussi, Hortense Dufour.
Oui, la grande force, et je dirais à travers les anciens, les textes qui sont pas toujours d'accord sur sa beauté, je pense que tout le monde s'est incliné sur cette intelligence supérieure. Elle avait une voix, la voix c'est très important, elle avait une voix extrêmement mélodieuse et fort instruite. Elle a compris, c'est une grande politique en fait, elle a compris très jeune que pour échapper à sa ville sanglante qui était toujours en guerre civile, elle s'est repliée sur le muséum et elle s'est instruite. Elle a compris qu'il fallait surtout parler les différents dialectes pour s'adresser à tout le monde et qu'une grande reine parle les langues de son peuple. C'est un peuple très composite, elle doit parler l'arabe, le nabatéen, plusieurs langues. Elle parlait 7 langues, c'est-à-dire elle s'adressait aux marchands, elle s'adressait aux gens de son peuple, mais en fait, quand elle écrit ses courriers, ses lettres sont en grec et en latin, et l'égyptien, qu'elle parle fort bien, est un dialecte du peuple.
Alors, elle parle presque toutes les langues, Hortense Dufour, mais surtout, elle était, dit-on, très belle, encore que là-dessus, les historiens de l'époque n'étaient pas tous d'accord. La revue de texte faite exceptionnellement aujourd'hui par Caroline Brouet.
Il semblerait que la beauté de Cléopâtre tienne davantage du mythe que de la réalité. Encore que pour Don Cassius, historiographe grec du IIe siècle, elle était splendide à voir et à entendre, capable de conquérir les cœurs les plus réfractaires à l'amour et jusqu'à ceux que l'âge avait réfrigérés. Il faut dire que les historiens de l'époque se sont moins souciés de sa beauté que de sa relation au pouvoir. Ceux qui glorifiaient le règne d'Auguste n'ont eu de cesse de dénigrer ses ennemis, Antoine et Cléopâtre. Ainsi, la reine est-elle apparue tour à tour sous les traits d'une femme impie et débauchée, d'une dangereuse séductrice, avide de pouvoir et magicienne. Pour le poète Lucain, Cléopâtre n'était qu'une reine perfide et despotique, incestueuse, qui vivait dans un luxe tapageur. Horace parle d'une reine insensée, avec son pestilentiel cortège d'hommes infâmes. Flavius Joseph la traite de princesse ambitieuse et avare. L'égyptienne, comme l'appellent ses ennemis avec mépris, n'eut donc pas les faveurs de tous. Plutarque est sans doute plus objectif. Dans le récit qu'il a consacré à la vie d'Antoine, il s'interroge sur la beauté de Cléopâtre. Certes, écrit-il, on dit que sa beauté en elle-même n'était pas incomparable, ni propre à émerveiller ceux qui la voyaient. Et il ajoute que d'ailleurs, elle ne surpassait Octavie, la femme d'Antoine, ni en beauté, ni en grâce. Pourtant, Plutarque reconnaît que Cléopâtre exerce un charme puissant sur ceux qui l'approchent. Son commerce familier avait un attrait irrésistible. Et l'aspect de sa personne, dit-il, joint à sa conversation séduisante et à la grâce naturelle répandue dans ses paroles, portait en soi une sorte d'aiguillon. En fait, si l'on en croit Plutarque, l'attraction qu'elle exerçait sur son entourage tenait essentiellement à sa voix, dont le son même donnait du plaisir, ce que Don Cassius confirme en ces termes « Le charme de sa parole était tel qu'il gagnait tous ceux qui l'écoutaient ». Très cultivée, Cléopâtre avait en outre de la conversation et pour couronner le tout, elle était effectivement douée en langue, puisque, nous dit Plutarque, sa langue était comme un instrument à plusieurs cordes dont elle jouait aisément dans le dialecte qu'elle voulait. Son érudition, son caractère passionné ont pu à l'évidence faire oublier le manque de finesse de ses traits. Mais reste un mystère, élevé au rang de mythe, son profil et plus précisément son nez. Ce long nez qui a fait écrire à Pascal que le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, la face de la terre aurait été changée.
Alors Hortense Dufour, est-ce que le nez de Cléopâtre, alors il était quoi? Il était long, court, pour que Pascal en parle comme ça?
La réalité, on l'a, parce qu'il reste à Dendera un profil de l'authentique Cléopâtre. Il reste quelques pièces de monnaie avec également son effigie. Alors, il y a deux choses, c'est que sur les statues de profil et la monnaie, même Jules César en monnaie, les nez sont très longs. Bon. Mais d'autre part, c'est une grecque. C'est une Ptolémée, c'est une macédonienne. Donc, par rapport au peuple égyptien qui a un nez anamite très différent, ce nez devait leur paraître fabuleusement long. C'est, si vous voulez, le profil un peu de la statue de Vénus. D'ailleurs, elle se coiffe souvent avec le chignon macédonien et elle ajoute les boucles égyptiennes. Enfin, elle a fait un syncrétisme intéressant, mais le nez, effectivement, par rapport à son peuple d'Égypte, est extrêmement différent. Nous sommes sous une dynastie macédonienne avec un syncrétisme égyptien.
Alors belle ou pas belle, peu importe, en tout cas elle avait sûrement du charme puisqu'elle a séduit non pas deux empereurs puisque Rome était encore une république, mais au moins les Romains les plus puissants de l'époque. Et d'abord Jules César, César arrive en Égypte en 48 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il vient y faire?
Alors c'est la guerre, à Rome c'est la guerre civile. L'Égypte, on n'en parle pas tellement à l'époque, sauf que c'est une province qui appartient à Rome. Et Jules César, qui est dans son triumvirat et qui est en guerre contre Pompée, Jules César qui a passé le Rubicon, qui est une sorte de hors-la-loi, poursuit Pompée. Pompée voulait dominer le monde et dominer Rome, et en poursuivant Pompée, après la bataille de Pharsale, d'Orient en Orient, si vous voulez, toute la Grèce est traversée, on arrive insensiblement vers l'Égypte. Pompée demande asile à Alexandrie parce que autrefois Pompée avait donné beaucoup d'or au père de Cléopâtre, à Ptolémée le Holète, qui aurait fait n'importe quoi pour ses orgies, donc il estimait qu'Alexandrie lui devait hospitalité. Il arrive à Alexandrie, mais César est arrivé un petit peu avant lui. Mais pendant ce temps-là, la Cléopâtre est cachée dans le désert, car
oui,
la fratrie...
Oui, parce qu'il y a son frère, effectivement, fratrie, qui veut le pouvoir.
Oui,
aussi. Enfin, bref, guerre civile un peu partout.
C'est guerre civile partout.
Et puis alors, il y a cette fameuse rencontre dans un tapis, dit-on, et là, il tombe sous le charme, au point que César va rester 2 ans en
parce
Égypte.
Parce que César, qui avait conquis et le monde et les femmes... et qui était adoré de ses armées, enfin c'est le conquérant, le séducteur aussi, apprécie par-dessus tout l'intelligence. Et sa puella laudens, comme il l'appelle, petite fille joueuse, il lui fait savoir, elle est au fond du désert vers le mont Cassion, qui est une affaire terrifiante, et il lui fait savoir qu'elle se débrouille pour venir me voir. Je suis là en tant que procurateur romain, c'est ma province, je vais régler leurs histoires. Mais il les connaît pas, mais il les méprise. Et elle a trouvé cette ruse... grâce à des alliances, ce serait très long à raconter, du désert, elle se fait effectivement envelopper, on dit, dans des hardes, on dit, mais les textes se recoupent tous dans un tapis, et Apollodore, le Sicilien, son allié, l'amène comme cadeau, et rentre dans le palais de la Lochias, occupé par César et les légions romaines. Qu'est-ce qui arrive donc? C'est un cadeau de ma reine à César, et on jette ce baluchon, si je puis dire, aux pieds du conquérant du monde, et elle sort en riant et en disant, je suis Cléopâtre la septième.
Et puis alors, bon, César tombe
il
sous
a été
charme,
séduit,
il reste,
séduit.
Complètement,
elle
il reste 2
ans.
Ans, il part avec elle pendant assez longtemps sur le Nil, à la recherche, dit-on, des sources du Nil.
Les cataractes.
Et elle lui fait un enfant, Césarion, évidemment, et un enfant pour lequel elle a beaucoup d'ambition, de même que pour César. Un autre extrait du Cléopâtre de Mankiewicz.
Quand j'avais 32 ans, en Espagne, j'ai découvert une statue d'Alexandre et j'ai pleuré là aussi.
Prends son rêve à ton compte, César. Le grand dessin qui s'était tracé. Reprends-le là même où il l'avait laissé. Fais de tout ce mélange disparate de conquêtes un seul monde. Et de cet unique monde, une seule nation. Un seul peuple sur la terre, vivant en paix.
Et le centre, la capitale de cet unique monde, de ce peuple, de cette nation. Alexandrie.
Il l'avait choisi.
Je suis romain.
Il était grec. Quelle importance, puisque nous ne serons tous qu'un seul peuple.
J'ai 52 ans. Lui a 32 ans à échouer.
Nous réussirons. Le manteau d'Alexandre le Grand ne peut pas être trop lourd à porter si Rome et l'Égypte le portent ensemble.
Alors ça, c'était l'idée de Cléopâtre, faire d'Alexandrie la capitale du monde. On comprend, Hortense Dufour, que les Romains ne l'aimaient pas.
Voilà le vrai dilemme et le vrai casus belli. C'est un petit peu comme si aujourd'hui Hillary Clinton épousait le roi de Bagdad, si je puis dire,
Saddam Hussein.
Ce serait un casus belli avec les États-Unis et avec l'Europe. On ne supporterait pas. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque. C'est-à-dire que cette Égyptienne, comme on disait, comme disaient les Romains, et ceux qui la haïssaient, la Catin du Nil, l'appelait-il, avait tout de même ourdi un projet grandiose de réunir ces deux mondes, mais de faire sa propre loi au Capitole et de devenir, en fait, et qu'Alexandrie soit la paix du monde, la capitale mondiale et non pas Rome la machiste. Elle manœuvre 2 grands Romains pour ce faire, César et après la mort de César, après les Ides de Mars, son meilleur capitaine Marc-Antoine.
Oui, effectivement, elle est d'ailleurs à Rome, je crois, quand César est assassiné.
Comme prisonnière, elle est à Rome.
En 44 avant Jésus-Christ. Et puis alors, elle se retrouve, elle fiche le camp, elle retourne en Égypte, à Alexandrie. Et puis elle se trouve au centre de la guerre qui va opposer les deux successeurs principaux de César, Octave et Antoine. Et elle jette son dévolu sur Antoine et elle le séduit lui aussi. C'était une femme étonnante.
Antoine était resté du parti césarien après les ides de mars où César est assassiné, y compris par son propre fils au milieu des assassins, c'est-à-dire les républicains, res publica, les choses de la République. Rome haïssait la reine, Cicéron haïssait Cléopâtre. Donc la voilà à nouveau à Alexandrie et Marc-Antoine la somme comme une vassale, au fond c'est une vassale toujours pour Rome, la somme de le rejoindre à Tars où il a sa garnison. Que lui importe à elle ? Elle a une stratégie absolument fabuleuse, une mise en scène des plus rares. Elle est très très riche. N'oublions pas que l'Égypte est toujours convoitée par Rome parce que c'est le grenier à blé, à céréales et à légions. Donc elle arrive sur une trirème d'or, d'argent, avec des filles qui ramaient, habillées en nymphes. Enfin, elle a mis en scène à la fois l'Olympe, toujours le syncrétisme, et les dieux d'Égypte, et elle arrive dans une espèce de coquillage immense, c'est Vénus qui arrive, et cette bourgade de Tars et ses quelques militaires, elle les invite à bord, la séduction est vite faite, immédiate. Alors elle leur offre tout son couvert en vermeil après le premier dîner, il y a trois dîners.
Alors Antoine tombe amoureux, subjugué par elle, cela dit, il part à Rome où il va épouser la sœur d'Octave, puisqu'il va pactiser avec Octave, donc il la quitte un petit peu, puis il revient tout penaud à Antioche, enfin plutôt il retrouve Cléopâtre à Antioche en 37, et là on voit que les rapports de force entre Antoine et Cléopâtre sont totalement inversés.
Alors Antoine, tu te présentes devant moi en suppliant ?
Si tu veux me considérer comme tel.
Je le veux. Tu vas par conséquent prendre la position que les suppliants doivent prendre devant ce trône. Tu vas t'agenouiller.
Tu as l'audace de demander au proconsul de l'Empire romain ?
Je l'ai demandé à Caius Julius César. De toi, je l'exige. Bien. Tu peux avoir le traité que tu viens chercher. Aux conditions suivantes. Par ton autorité comme proconsul de Rome, tu vas céder à l'Égypte immédiatement les pays dont les noms suivent. Judée, Jordanie, Arménie, Phénicie, les provinces du Sinaï et d'Arabie. Et les îles de Chypre et de Crète.
Tu me demandes là un tiers de l'Empire romain ?
C'est moi plutôt qui t'en donne les deux tiers.
Hortense Dufour, là, les rapports sont étonnants entre Antoine et Cléopâtre. Je trouve que dans le film de Mankiewicz, le choix des acteurs est bien choisi parce qu'Antoine et Cléopâtre, c'est vraiment, on a l'impression, Liz Taylor et Richard Burton. Hein.
C'est un peu ça. En tout cas, la beauté de Marc-Antoine, c'est une beauté à la fois bestiale et divine. C'est vraiment Hercule fait homme. Il se promenait pratiquement nu avec une queue de loup, par exemple.
Elle était amoureuse de lui.
Des vignes, sexuellement. Ouais. C'est torride. C'est un rapport absolument torride, mais en même temps, ils sont unis progressivement. Ils sont inséparables au point qu'il va commettre l'acte de Cassius Belli le plus grave qui soit. Il va l'épouser tout en ayant épousé Octavie, la romaine, à qui il a fait deux petites filles. Mais il épouse Cléopâtre, à qui il fait deux jumeaux, Alexandre et une Cléopâtre. Et un troisième enfant, Ptolémée, mais entre-temps, il aussi, c'est un très très grand capitaine, et elle lui dit surtout, va me pêcher des royaumes.
Et oui, c'est ce qu'on a entendu, là, elle lui demande c'est quand ça. Même la moitié de l'Orient, parce qu'il faut savoir qu'entre Octave et Antoine, il y avait eu une espèce de pacte, à Octave, l'Occident, à Antoine, l'Orient, c'est-à-dire tout l'actuel Proche-Orient,
mais sans la consulter, elle.
Oui. Et alors justement, elle lui demande des territoires, est-ce qu'il les lui a donnés ?
Va me pêcher des royaumes, oui. Ce fut une catastrophe. Oui. Antoine a des immenses qualités, non seulement d'amant, mais c'est un très 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 grand militaire. Mais il a un défaut terrible. Il boit, il est totalement alcoolique, il a des crises d'abattement schizophrénique, des crises d'abattement soudain. C'est elle qui mène le jeu. Mmh. Il est faible. Par rapport à César, il est faible. Il est à la fois puissant et faible. Va me pêcher des royaumes. Mais pour arriver à cette phrase, elle lui a fait goûter à la vie inimitable, c'est-à-dire de raffinement, en orgie raffinée. En l'instruisant, il était fort instruit. Elle le séduit, elle l'envoûte, elle l'affaiblit. Il est à ses pieds.
Et c'est la raison pour laquelle, donc, à Rome, où il ne revient pas, il reste pendant très longtemps auprès de Cléopâtre.
Il l'épouse.
Octave en profite. Lui, il est absent ayant toujours tort. Il en profite pour discréditer totalement son rival, Antoine. Hein, on l'accuse de vouloir créer justement une espèce de royaume dont l'Italie, dont Rome ne serait plus que la province. On dit qu'il est tombé entre les bras d'une magicienne, etc. Et c'est ainsi qu'Octave obtient du Sénat la déclaration de guerre à l'Égypte, à Cléopâtre.
Et ne pas oublier qu'Octave, c'est Jules César qui l'avait nommé dans son testament. Mmh. Il n'a jamais parlé de Césarion. Jules César, ébloui d'amour, n'est ébloui par personne, en fait, et voyait loin. Il savait que Octave, tout boutonneux, tout pustuleux, ce pauvre Octave que tout le monde épousait, est le futur Auguste.
Ouais.
Et en fait, le pire ennemi de Marc-Antoine et de Cléopâtre. Mmh. Mais effectivement, il s'est mis dans un cas très très grave, Marc-Antoine. Il est bigame, il a répudié Octavie, mais en fait, il est bel et bien marié, et il épouse Cléopâtre, et il crée tous les deux le pacte d'Antioche. Mmh. C'est-à-dire qu'il se partage, avant même d'avoir tout conquis, les différents royaumes d'Orient, l'Occident leur étant pour eux complètement acquis.
Alors c'est la raison de la guerre, donc,
de la guerre contre
que Octave va faire, et puis de cette bataille extraordinaire de l'Antiquité, une des plus grandes batailles de l'Antiquité, en 31 avant Jésus-Christ, la bataille d'Axium, dans l'actuel golfe de Patras en Grèce. Alors là, c'est le désastre pour les soldats et surtout pour la marine d'Antoine et Cléopâtre qui sont présents.
C'est le désastre à cause d'Antoine et du machisme romain, parce que Antoine, Cléopâtre avait certaines légions romaines qui leur étaient restées fidèles, mais ils ont devant eux tout Rome. Or, Cléopâtre a fait les plans, elle était amirale, elle connaissait parfaitement la mer et les armes.
Ouais.
Elle se battait, c'est elle-même qui dirige la trirème. Ils ont chacun leur navire, l'Antonia, ils se disputent à bord, lui prend un autre navire.
Alors, leur flotte est écrasée.
Est écrasée parce que ce sont des machos, ils n'ont pas voulu écouter ses plans. Or, les Romains se battent très mal en mer, mais très bien sur terre. Et la dispute et la querelle entre amants, je dirais que c'est une querelle d'amants qui précipite la catastrophe d'Axium.
Et puis la fuite des amants, alors là, c'est commence le déclin de ce couple étonnant, Antoine et Cléopâtre. Ils rentrent en Égypte, abandonnés par tout le monde, pourchassés par Octave, et il n'y a plus personne. Et puis alors, c'est le suicide d'Antoine d'abord, après une dernière bataille contre Octave qui a débarqué en Égypte et qui se suicide le 10 juillet, je crois, 30.
Alexandrie est cernée de plus en plus par les troupes d'Octave, qui fait assassiner ses enfants, ses arions, les uns et les autres. Et puis par un malentendu, un quiproquo, le couple se dispute énormément.
Encore, oui.
Elle le traite d'outre-avant, elle le traite de faux amant.
Louis Taylor et Richard Burton, oui.
Elle le traite de romain, il l'appelle l'égyptienne, il lui dit « tu es vieille, Égypte ». Ils ont des querelles vraiment d'amants. Donc elle avait commencé à faire construire son mausolée. C'est pas des grandes pyramides comme autrefois, c'est un mastaba très grec. Et réfugiée dans le mausolée, elle fait croire qu'elle s'est suicidée. Il le croit et il se perce le flanc à coup de glaive. Et c'est la scène dans Shakespeare, et qui est tout à fait authentique, où, folle de chagrin et lui-même, on réussit à ramener ce corps dans le mausolée. Il expire et c'est assez long, c'est une blessure épouvantable, mais quand même l'agonie est lente. Et là, elle perd vraiment toute son attitude
c'est
de pharaon.
Superbe, oui.
Elle s'arrache les cheveux, elle devient la femme orientale en désolation. Elle l'aime à en mourir. Nous sommes le 10 juillet, la crue commence, et 10 jours plus tard, ce sera son suicide.
Effectivement, parce qu'elle ne veut pas que Octave, qui vient d'entrer dans Alexandrie, la traîne à Rome, parce qu'il veut évidemment en faire la pièce maîtresse, de son triomphe.
Enchaînée derrière un char.
Et elle refuse, et là, c'est la fameuse scène du suicide, en tout cas telle que plus tard que l'a vue. Elle se fait piquer par un serpent qui était caché dans un panier de figues. La mort de Cléopâtre, donc telle qu'elle a été décrite par Plutarque et filmée par Mankiewicz.
Je servirai Sa Majesté, comme toujours. C'est moi qui l'ai toujours servi.
Restez là, toutes les deux. Vous allez m'habiller pour mon voyage. Laisse-moi voir maintenant si les figues sont toujours aussi bonnes. On dit qu'elles ont une saveur très âpre, mais qui passe très vite. Antoine.
Et le Romain demanda, « Trouves-tu que ta reine a bien agi ?» Et la servante répondit, « Extrêmement bien. » Ainsi qu'il convenait à la dernière de tant de nobles souverains.
À la fin de Cléopâtre, en 30 avant Jésus-Christ, on ne sait pas très bien si ça s'est passé comme ça, Hortense Dufour.
On est à peu près sûr de la piqûre des cobras. Tout simplement, c'était très aisé de passer un panier. C'est par les complicités d'Iras et Charmione,
les deux servantes.
Deux servantes.
qui se sont suicidées.
Il lui reste, ah oui, oui, elles l'adoraient, elles sont mortes en même temps. C'est encore un rituel d'Égypte. Et elle avait 10 jours. Octave lui a laissé embaumer Antoine. Il lui restait 10 jours. Elle a quand même essayé la stratégie de séduire Octave, qui est venu la voir une fois au mausolée. Mais c'est déjà une femme de 39 ans. Et Octave ne l'aime pas physiquement. Sinon, je pense qu'elle lui a encore renversé la situation.
En tout cas, elle se suicide. Qu'est devenue l'Égypte après, parce que c'est la dernière reine d'Égypte.
Alors, l'Égypte est devenue tout à fait une province. Un procurateur romain est une sorte de préfet a dominé l'Égypte. Toutes les affaires étaient réglées par Octave. Octave est devenu le maître du monde. Donc, Rome a redominé le monde. L'Égypte est devenue vraiment le grenier à blé à céréales de Rome. Et 600 ans plus tard, ce sont les Arabes. Mmh. Ce sont les invasions arabes. Il n'y a jamais eu de pharaon. C'est le dernier pharaon. C'est la dernière reine. Ça s'achève avec Cléopâtre, la septième. La Ptolémée, la septième. Et progressivement, la mer a gagné du terrain. La Lochia, c'est donc le tombeau, se trouvait en extrême bord de la mer. C'était absolument magnifique, probablement. Et la mer et le sable, et la mer et le sable. Même le phare avait disparu. Et à force de fouilles, il n'est pas, nous ne sommes pas, probablement, on retrouvera quelques traces ou quelques coffrages. Mais pendant des siècles, la mer et le sable, et puis 6 siècles plus tard, c'est le monde arabe.
Merci Hortense Dufour. Je rappelle donc le titre de votre livre, Cléopâtre la Fatale, publié chez Flammarion. Flammarion, vous venez également de publier une autre biographie, Marie-Antoinette la Mal-Aimée. À lire également le dictionnaire historique de l'Égypte antique de Philippe Châtel, qui vient d'être publié chez Berg International, éditeur. Vous avez pu entendre des extraits du film Cléopâtre de Joseph Mankiewicz avec Elizabeth Taylor dans le rôle de Cléopâtre, Richard Burton dans celui de Marc-Antoine et Rex Harrison qui jouait César. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Sandrine Laurent, documentation Anne Weinfeld et Virginie Bloch-Lenné, revue de texte Caroline Brouet, une réalisation de Anne Kobilac.